Ça fait 5 ans que je viens ici prêcher. Ça remonte, hein ? Quand Christian m'a demandé de venir aujourd'hui et que du coup bah, j'ai demandé un peu à Dieu ce qu'il voulait que je dise, il m'a mis un thème à cœur qui est la relation à Dieu, la relation avec lui. Et du coup j'ai emmené Esther avec moi parce que toutes les deux on a des visions très complémentaires en fait de cette question-là, on va dire. Donc voilà, j'en ai Esther, ma sœur Claire et puis mon mari Florent. Vous allez voir, on peut en parler tout à l'heure. Esther m'a beaucoup appris ces dernières années sur, justement sur Dieu, sur la relation à Dieu. Et en fait, du coup, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir affaire à nous deux. Le but de cette prédication, c'est d'être interactif. Du coup, si on vous pose des questions, sentez-vous libre d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans un culte, je crois que là-dessus on est à peu près tous d'accord. Et un culte pour moi, c'est louer Dieu. On est là pour Dieu, pour louer Dieu. Seulement, pour louer Dieu, encore, il faut savoir qui il est. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, personnellement, louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Donc du coup, je pourrais facilement louer un ami pour un trait de caractère, quelque chose qu'il a fait. Je pourrais louer un homme célèbre, si je connais un peu sa biographie. Je pourrais dire que Léonard de Vinci était très intelligent. Par contre, je crois que je serais très en difficulté si on me demandait de louer quelqu'un dont je ne sais rien. Même pas sa photo. Je veux dire, je pourrais dire qu'il est beau si je connais sa photo, mais si je ne connais rien de lui, je ne pourrais pas le louer. Donc du coup, pour moi, louer Dieu, ça va commencer par bah, ce que je sais de lui, ce que j'apprécie de lui, ce que je le vois. Et du coup, bah, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Louer Dieu, ça commence par qu'est-ce qu'on sait de lui ? Qu'est-ce qu'on aime en lui ? Qu'est-ce qu'on apprécie ? Et comment on le voit ?
Dans la Bible, on trouve un passage dans Matthieu 22, les versets 36 à 38, où un jeune homme, c'est un passage qui est très connu, donc on ne va pas l'afficher, c'est un jeune homme qui vient demander à Jésus quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et seulement, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, pour aimer quelqu'un, encore faut-il le connaître. Est-ce qu'on est d'accord à peu près là-dessus ? Ouais, ça va. Alors, Esther, pour toi, c'est qui Dieu ?
C'est mon papa chéri.
Ah, là on va avoir un problème.
Bah pourquoi ?
Bah parce que pour moi, Dieu c'est un maître. Du coup, à votre avis, Dieu c'est quoi ? C'est un papa ou c'est un maître ?
Les deux, mon capitaine.
Bah, en fait, tout dépend de la relation qu'on a à lui.
Dieu, il est un. Jusque-là, on est d'accord. Effectivement, comment est-ce qu'il peut être à la fois un papa et un maître ? Esther l'a dit, ça dépend de la relation qu'on a avec lui. Alors, ok. Qui parmi vous, normalement je ne prends pas trop de risques, mais qui parmi vous a un père biologique et une mère biologique ? Ouais, j'avais dit que je prenais pas trop de risques. Est-ce que vous avez la même relation avec votre père et avec votre mère ? Non, on est d'accord. Pourquoi ? Ah. Bah oui, parce qu'ils sont différents. En fait, nous n'avons pas la même relation avec Dieu parce que nous n'avons pas tous la même vision de lui. Jusque-là, ça va ?
Alors, pour illustrer ça, on peut poser une question très simple. On peut juste demander si Dieu est plutôt grâce ou plutôt justice. Alors là, je vois les malins. Ah, il est les deux. Non, non. Ouais, ok. Intellectuellement, on sait qu'il est les deux. Ça, on est tous d'accord. Il est grâce et justice. Mais dans ce qu'on vit, en général, on le voit plutôt grâce ou plutôt justice. Pour moi, Dieu est plutôt grâce.
Et pour moi, Dieu est plutôt justice. Vous comprenez pourquoi c'est intéressant quand on discute toutes les deux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase « Être chrétien, ce n'est pas être religieux, mais avoir une relation avec Dieu. » Ou bien « Le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. » Eh bien, aujourd'hui avec Esther, on voudrait vraiment discuter avec vous et réfléchir avec vous sur qui est Dieu pour vous et quelle relation, du coup, vous avez avec lui.
Et on a envie de dire, c'est d'autant le moment de le faire, parce qu'il y a 2 mois, on a fêté Noël. Et Noël, c'est le moment où Dieu est venu vivre parmi les hommes. Je veux dire, Jésus a pour nom Emmanuel, c'est pas pris au hasard, ça veut dire Dieu avec nous.
Et en Matthieu 27, verset 51, on trouve une magnifique démonstration de cette envie d'être avec nous quand, au moment où Jésus meurt sur la croix, il est dit que « Voici, le voile du temple se déchira en deux du haut jusqu'en bas. » Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une image que je trouve extraordinaire parce que ce voile, c'était la représentation de la séparation entre la présence de Dieu et les êtres humains. Et avec la mort de Dieu, le Fils, sur la croix, le voile se déchire. C'est la fin de la séparation, la restauration de la relation. Les humains peuvent à nouveau aller vers Dieu grâce à Jésus et avoir une relation, une véritable relation avec lui.
Donc le mot-clé, il est donc bien question de relation. Il n'est pas question de rituel sacré, de cérémonie, de religion, de culte pour les apparences, de petits gestes répétés. Tout ça, ce n'est pas le mot-clé. Le mot-clé, c'est bien relation. Dieu veut une relation avec nous, avec toi.
En discutant avec Esther depuis quelques temps, je me suis rendu compte que nous n'avons vraiment pas du tout la même vision de Dieu. Et pourtant, on a le même Dieu, hein, ça, je vous l'assure à 100%.
En vérité, la relation qu'on a avec Dieu, donc celle que j'ai avec lui, celle que Mélodie a avec lui et celle que vous avez avec lui, ça vient très souvent de la première facette, la première vision que nous avons eue de Dieu quand nous l'avons rencontré, entre guillemets, la première fois.
Alors du coup, on va vous donner un tout petit peu notre témoignage. Ma première relation avec Dieu, j'avais 5 ans. À ce moment-là, j'ai expliqué à Dieu la façon dont je voyais les choses. Je lui ai dit, écoute Dieu, je crois que tu existes et ça, je ne peux pas le remettre en doute. Par contre, toi, tu es dans ton ciel pour gérer le monde et moi, je vis ma vie. Alors, je crois que tu prends soin des autres et que tu interviens dans leur vie, mais pas dans la mienne. C'est un peu violent à 5 ans. Déjà, à ce moment-là, en fait, on trouve la vision du maître. Il est celui qui gère le monde, le maître. Et puis, il est devenu mon maître. Lorsque j'avais 7 ans, c'était le 19 septembre 2004, j'étais à l'église et nous avons commencé à chanter le chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Je pense que vous le connaissez. Et dans les paroles, il y en a qui m'ont frappé, mais vraiment de plein fouet, de la terre à la croix payée pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais chanté ce chant des centaines de fois déjà, mais ce jour-là, le « pour moi », je l'ai pris dans la tronche. Vraiment. Il est venu, il m'a percuté. Même si j'étais seule sur terre, Jésus aurait quand même donné sa vie. S'il a racheté ma vie en donnant la sienne, alors il en est le propriétaire. Je lui appartiens dans un sens tout légal, en fait. C'est une question de justice. Il m'a acheté, il m'a racheté. Alors, puisqu'il est mon propriétaire, il est aussi mon maître. Et voilà comment la première facette de Dieu que j'ai rencontrée, c'est celle du maître.
Or, pour moi, évidemment, qui est la facette, une facette totalement autre, la rencontre s'est faite toute différemment. Mais je ne pourrais pas vous la raconter. Or, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que je ne m'en souviens pas. J'étais trop petite. D'aussi loin que remontent mes souvenirs, je connais Dieu. Je lui parle, je lui fais confiance. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'est une vie sans Dieu. Plus tard, j'ai associé le mot Dieu à cette présence, et ça, je ne sais pas quand, de nouveau trop jeune. Ado, j'ai compris qu'on l'appelait dans les églises le Saint-Esprit. Donc j'ai mis petit à petit les mots des églises sur ma relation à Dieu. Mais la présence à mes côtés, je l'ai depuis peut-être que je ne marche pas. Et en fait, cette présence à mes côtés, elle est restée là. Elle me soutient, elle m'encourage, elle m'écoute quand ça ne va pas, elle me conseille, elle me reprend. Et ça, depuis très tôt. Mais du coup, quelle autre vision que celle du papa voulez-vous donner à une enfant? Il n'y en avait pas d'autre en fait possible à mon âge. L'enfant a grandi, mais l'enfant a toujours besoin de son papa. Et ce n'est pas parce que Mélodie a grandi que son papa n'est pas son papa. J'ai grandi, mais Dieu, c'est mon papa.
En fait, dans un sens, Esther a raison, Dieu est le papa. Mais il est aussi le maître, c'est vrai aussi. Pour Florent, mon mari, il est le juge. Et ça aussi, c'est vrai.
Et pour ma sœur, il est l'indescriptible, le saint. Et ça aussi, c'est vrai.
En fait, alors permettez-moi l'image, hein. Mais Dieu, c'est comme une boule disco. Il a plein de facettes. Et on a rigolé tout à l'heure parce que quand on a chanté les premiers chants, vous avez chanté « Tu es merveilleux ». Et en fait, dans le chant « Tu es merveilleux », on voit plein de facettes qui sont décrites. un père et un ami, par exemple. Ce sont deux choses différentes. Et la Bible nous présente énormément de facettes. On a le papa et le maître, comme on vous l'a dit, mais on a aussi l'admirable conseiller, le Dieu de vie, le miséricordieux, le père, le frère, le merveilleux, celui qui fait des merveilles, le lion protecteur et le bouclier, le chef des armées célestes, le brave vengeur ou bien le sage.
Pour certains, on pourra aussi citer le Créateur. Pour d'autres, le Dieu puissant, le divin médecin, celui qui ne dort jamais, le bénissant, le fidèle, celui dont les promesses s'accomplissent, le roi des rois, le guide, l'abri dans la tempête ou le roc sur lequel s'appuyer, ou encore simplement un ami.
En Matthieu 23, verset 37, la Bible décrit même Dieu comme une mère poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible.
On est tous différents, et ça Dieu le sait. Il nous a créés différents et riches de différences. On est différents par nos éducations, nos histoires, nos cultures, nos caractères, nos physiques, nos sensibilités. On est différents sur plein de choses. Dieu le sait. Et c'est pour cette raison même qu'il ne pouvait pas s'approcher de nous avec la même façon, la même manière. Et c'est pour cette raison qu'il se révèle à nous avec une facette qui nous parlera le plus.
Et cette facette que nous avons chacun rencontrée en premier lieu impacte du coup notre relation avec lui.
Tu veux dire qu'on ne se comporte pas de la même manière avec un maître et un papa ?
T'as déjà essayé ?
Oui, ça n'a pas bien marché.
Moi aussi, ça n'a pas bien marché non plus. C'est vrai, et on a des facilités du coup à comprendre certaines choses. Par exemple, pour moi qui ai la facette maître, la question de la soumission à Dieu, c'est très facile. C'est le maître. Donc c'est lui qui décide, il dit quelque chose, j'obéis, sans chercher à comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand je lui demande pourquoi, il me dit « t'occupe ».
Alors que moi qui ai la facette papa, bah, ma grande force, ça va être que je suis absolument convaincue de la présence et de l'amour de Dieu. Et je vais forcément chercher l'intimité avec lui. Par ailleurs, moi, la question « pourquoi ?», j'ai souvent des réponses.
Il y a des chouchous.
Ouais, il y a papa, j'assume.
Du coup, là, comme ça, on voudrait juste vous demander, vous, quelle est la facette de Dieu que vous avez rencontrée en premier ? Oh, vous avez 4 heures.
Non, on n'a pas tout ça. En fait, vous avez 4 minutes.
Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé.
Un roi.
Un roi.
Un roi.
Pour moi, c'est un papa aussi.
Un papa. On est deux. Trois papas. On est tous des filles à papa, là. Il est difficile à papa.
Un maître.
Un maître.
Papa aussi.
Mettons, c'est indescriptible.
Extraterrestre. Alors, du coup, ça impacte comment votre relation à Dieu ? Qu'est-ce que ça change dans vos vies entre vous ? Quelles sont vos forces ? Quelles sont vos faiblesses ? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre à voix haute, mais vous voyez entre guillemets là où on veut en venir. La vision que vous avez de Dieu
vous fait forcément des forces et des faiblesses. Donc, la question, effectivement, à la pose, si vous n'avez pas envie de répondre à voix haute, vous pouvez. Mais par contre, vous sentez cette question, qui est Dieu pour vous ? C'est vos forces et vos faiblesses. Et maintenant qu'on a un peu défini votre relation à Dieu, on vous encourage à en discuter avec d'autres personnes. Parce que c'est bête, mais si plus on en discute avec des gens, plus on découvre de facettes. Plus on découvre de facettes, mieux on comprend Dieu. Et plus vous connaîtrez de facettes de Dieu, plus, entre guillemets, vous aurez une vision complète de la boule disco. Et plus bah, vous aurez une meilleure compréhension de l'ensemble de la boule disco.
Alors, on vous met tout de suite en garde, hein. Personne ne connaîtra jamais Dieu entièrement. Et parfaitement. Quand on parlait de la boule disco avec Claire, en fait, on se disait, mais comme c'est rond, bah, y a des trucs de l'autre côté qu'on verra jamais. Mais c'est pas grave, c'est intéressant du coup de discuter avec ceux qui voient de l'autre côté. La dernière fois que je suis venue prêcher, c'était il y a 2 ans, je crois, je vous avais parlé de dire non à Dieu. C'est quelque chose, vous imaginez bien que moi, Dieu le maître, c'était inimaginable. Absolument. Donc c'est de sa faute, en fait, si je vous ai prêché ça. Parce qu'en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait on avait le droit. Mais voilà, c'est Il y a cette question de discuter les uns avec les autres, et c'est ça aussi qui fait la richesse du fait qu'on soit tous différents et qu'on ait une relation avec Dieu qui soit tous différents.
Alors, maintenant qu'on a parlé de notre vision de Dieu, on va parler concrètement de relation, vu qu'on a dit que c'était le mot-clé. La relation, je pense que je ne m'engage pas trop, on est tous d'accord, c'est la découverte de l'autre, de sa manière de penser, de sa manière de fonctionner.
Mais la relation, c'est aussi des ajustements, des moments partagés, des incompréhensions, des discussions, des débats, des désaccords, des conflits, et puis plein d'autres choses encore.
D'ailleurs, dans la Bible, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on voit plein de personnes qui parlent avec Dieu, qui lui posent des questions, voire qui négocient. Je pense qu'on a tous en tête le passage où Abraham négocie le sort de Sodome et de Gomorrhe. Mais c'est une négociation de marché, quoi. Et bon, ça, pour ceux qui veulent relire, je cite ma référence, c'est Genèse 18, versets 22 et 23. Et donc, il y en a qui s'amusent même à négocier avec Dieu.
En fait, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je l'ai souvent vu dans les églises, on a l'impression qu'avec Dieu, on ne peut pas se permettre certaines choses parce que c'est Dieu. Alors, si ce n'est pas votre vision des choses, vous en êtes bénis. Mais en fait, il faut partir du principe que Dieu, il nous connaît. Il sait faire la différence entre une explosion de colère parce qu'on fait un caprice et une explosion de colère parce qu'on est bouleversé par une situation injuste, par exemple. Et dans la deuxième partie là, de la prédication, en fait, on voudrait vraiment vous encourager à oser apporter toutes vos émotions à Dieu, de venir devant lui tel que vous êtes et lui ouvrir complètement votre cœur et vos pensées.
Parce que c'est vrai que dans les églises, on a souvent tendance à venir et on partage très facilement, mais alors, très aisément, tous les sentiments dits positifs. La joie, la fierté, l'amour, l'émerveillement. Mais pour les émotions dites négatives, on n'ose pas. Pourquoi ?
En réalité, Dieu ne veut pas une relation avec nous seulement quand vous allez bien, mais aussi quand vous êtes en colère. Quand vous êtes revendicatif, quand vous êtes plein d'incompréhension, quand vous êtes déçu, triste, blessé, impatient. C'est ça qui fait une relation.
Et d'ailleurs, dans la Bible, on la voit, cette relation. On peut penser à Gédéon, qui est plein de doutes quand Dieu lui demande d'aller attaquer l'Arménie. On peut penser à Jérémie, qui peut être parfois complètement en dépression ou en colère.
Dieu nous veut authentiques devant lui. Il ne nous demande pas de jouer un rôle. Là, on retombe sur la différence entre la religion et la relation. Il ne nous demande pas toujours d'aller bien, de toujours être ardent, de toujours être au taquet pour servir. Jésus, il a vécu la vie humaine lui aussi, et Noël est là pour le rappeler d'ailleurs. Il a été en colère, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Jésus en colère qui chasse les marchands du temple. Bah parce que il était en colère. Bah ça ne veut pas dire que du coup la colère est mal. Ça dépend des raisons. Ça dépend aussi de comment elle s'exprime. Il a été triste. Le verset, je ne sais pas si vous connaissez le plus court verset de la Bible, c'est deux mots. C'est Jésus pleura. Il a été déçu lui aussi. Il a été trahi.
En fait, on vous encourage à venir apporter toutes vos émotions à Dieu. Pas seulement les positives, mais toutes. Elles vous permettront aussi de comprendre de nouvelles choses avec Dieu. Il se sert de nos émotions, y compris les négatives, pour nous faire grandir, pour nous apprendre des choses. Il a envie de traverser les coups durs avec nous. Et il a envie de nous aider dans ces moments-là. C'est à ce moment-là, encore plus que dans les autres, que la relation se renforce. Si on se cache à ces moments-là, ben c'est rater une occasion de grandir. Pour illustrer cette notion-là, je vais vous parler d'un des derniers gros coups durs que j'ai eu. Ça s'est passé mai dernier. Donc mai dernier, tout était prêt, j'adopte un chat. Ok, tout le monde se dit, ouais, bon, elle adopte un chat, qu'est-ce qu'elle raconte ? Ouais, mais en vrai, c'était un petit loulou, voilà, je l'ai eu à la maison, et je suis une personne hypersensible. L'affectif, ça me connaît. Donc je prends un chat, un vieux matou, plutôt en bonne santé, un peu d'asthme, et je le prends chez moi, il s'installe, on fait connaissance, je m'attache à lui. Deux semaines plus tard, c'est le drame, il ne mange plus, je l'emmène chez le vétérinaire, il faut le faire piquer, il est atteint d'une maladie incurable. Et là, je regarde Dieu, première émotion qui monte très très vite, je le fais piquer, c'est un jeudi soir. Le soir même, j'appelle, je suis enseignante, j'appelle le collège, je ne peux pas venir, je fais des crises de larmes. Sur crise de larmes, j'ai un conseil de classe. J'appelle le collège, je suis obligée d'annuler mon travail le soir même. Je suis dans un état, je me mets littéralement en état de choc. Et là, dans la soirée, je vais voir Dieu, je fais « Papa, demain, j'ai 7 heures de cours. » Je fais des crises de larmes, j'ai peur, je vais péter un boulon. Comment ça va se passer devant les élèves? Je peux pas aller, je peux pas. Peur qui monte. Je vais voir papa. Et là, je fais « Écoute, là, viens m'aider, viens gérer. Je peux pas, en fait. J'ai besoin d'un coup d'aide, j'ai besoin que le deuil il se fasse. Mais genre, vite, tu me connais, c'est pas possible, j'ai besoin d'un miracle. » Peur égale miracle dans cette histoire. Ok. Bon, le deuil, ça commence par le déni, je lui fais, là, j'y vais franco, je mets la tatane, je me mets bien dans la tête que le chat est mort. Ok, très bien. Deuxième truc après le deuil, la colère. Vous aimez apprendre votre colère à Dieu? Moi, je la sens qui monte. Après tout, c'était pas juste. Ça monte. De nouveau, je vais voir Dieu. Papa, de l'aide. Je veux pas que ça se tourne ni contre des hommes, ni contre toi. Arrange-toi, elle va péter. La colère explose. Sur l'esprit de maladie. Croyez-moi ou pas, depuis j'ai réadopté un chat. Lui, pour le coup, immunodéprimé. Bah, il n'a jamais été gravement malade chez moi. Hein. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Colère est égale bénédiction. Anti-maladie pour mon chat sur ma maison. Troisième émotion qui monte. La tristesse. Je dis à Dieu, écoute, Joker, demain je cours. On enterre. Le lendemain, Dieu, hop, on déterre. La SPA qui appelle, la famille d'accueil qui appelle, hop, on déterre. Ok, je comprends la blague, c'est le week-end. Je fais adieu. Écoute, deal, je me mets au piano, je prends des chants de louange, on fait sortir ça tranquillou, hein. Là on a le temps. Je me mets sur mon piano, je commence sentiment à louer, je prends les chants, des chants de soutien comme on dit. Mon seul abri c'est toi, mon secours est en toi. Ça se passe bien, 3 chants, 4 chants. Là Dieu me dit, je peux choisir le suivant. Vous sentez arriver la blague? Il m'a demandé de chanter « J'abandonne mes peines, je laisse tout tomber pour la joie du Seigneur, je veux Seigneur te dire oui. » Non! Non, attends, no deal. J'ai le droit, là, tout de suite, j'ai le droit d'être triste. Et là, Dieu qui me dit gentiment « T'as demandé un miracle, est-ce que t'es prête à mettre en place ce qu'il faut pour l'avoir ?» Et l'incompréhension, très grande leçon de vie sur « tu veux un miracle ?» Très grande leçon de vie pour « tu es capable de mettre en place ce que tu veux ? Est-ce que tu es capable de faire le pas de foi ?» Or, je ne vous dis pas que le chant il a été beau, hein. Ça a été une catastrophe. J'ai explosé en live. Croyez-le ou pas, 2 jours après, le deuil était fait. Dernière émotion négative après tout ça, il y a la phase de l'acceptation. Avec la phase de l'acceptation, il faut tout reconstruire. Il y a quand même un moment où j'ai été voir Dieu en mode « Écoute, ok, j'ai compris, mais sincèrement, pourquoi t'as fait ça ? T'as été là, le miracle est là, merci, ok, très bien. Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Tu me connais, tu sais que je suis hypersensible. Pourquoi un chat, 2 semaines, pile le temps qu'il faut que je m'attache, je le voyais, et puis bim, tu casses, mais dans la pire face possible. Pourquoi tu m'as fait ça ? Enfin, sincèrement, t'aurais pu choisir un autre chat ou je ne sais pas. » Il m'a dit « Oui, et ce chat, il est mort de quoi ?» Pas de maladie. Et grand enseignement sur la maladie. Mon incompréhension, je l'ai amenée. J'ai eu un grand enseignement sur la maladie, je ne la vois plus du tout de la même manière. Dans ce témoignage, regardez toutes les émotions négatives que j'ai amenées. La peur, c'est le miracle. La colère, c'est la bénédiction. La tristesse, c'est transformé en calme. L'incompréhension, c'est transformé en enseignement. Par 2 fois. Si j'avais refusé ne serait-ce qu'une seule fois que Dieu vienne et se pose avec moi, si j'avais refusé qu'une seule fois de lui apporter ça, le miracle aurait-il eu lieu ? Je ne crois pas. Mais de toutes ces émotions négatives concaténées là en 3 jours, j'ai appris énormément. Et c'est pour ça que je vous dis que refuser d'apporter vos émotions négatives, c'est refuser de très grandes bénédictions. D'ailleurs, si cette histoire n'avait pas eu lieu, j'aurais pas pu vous la conter aujourd'hui pour vous enseigner et vous fortifier à votre tour. Ces émotions négatives portent encore du fruit autour de moi.
En fait, si on n'offre pas à Dieu notre authenticité, nos réactions, nos émotions, alors la relation, elle n'est pas complètement honnête, en fait. Et comme l'a dit Esther, à ce moment-là, ben, les épreuves par lesquelles on aurait pu grandir, eh ben, du coup, on les vit juste comme une fatalité, une condamnation, et en fait, finalement, ça ne nous aide pas à grandir. On les vit dans notre coin, et puis c'est tout. On attend que ça passe.
En conclusion, j'espère que toutes les questions qu'on vous a posées vous ont permis de comprendre ou au moins de réfléchir sur qui est Dieu. Pour vous, pour les autres, dans ce que vous vivez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez peut-être. Dans toutes vos réponses, toutes différentes, toutes justes, se trouve pour moi la clé d'une relation à Dieu qui est saine, qui est forte, qui est pleine de confiance et qui est authentique. Nous espérons que toutes ces questions vous pousseront à mieux le connaître, à ce que vous rentrerez à rentrer dans une nouvelle dimension dans votre vie, qui est dimension spirituelle évidemment, mais surtout une vision, une nouvelle relation quotidienne du jour à jour.
Si j'ai demandé à Esther de venir prêcher aussi avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'on est toutes les deux convaincues de la même chose en fait, c'est que Dieu ne veut pas simplement qu'on lui donne notre vie et qu'après ce soit juste une liste, une longue liste en plus, de choses à faire ou à ne pas faire. Et je crois sincèrement, mais on croit sincèrement, que la vie avec Dieu, c'est beaucoup plus large que ça et que notre relation avec lui est le clé du rayonnement de sa gloire sur cette terre. Nous sommes appelés à la vie et la vie, ça bouge. Ça bouge, ça évolue. Tout comme notre relation avec Dieu. Et il veut nous voir grandir. Il ne veut pas nous voir rester des bébés pour l'éternité. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait vous apporter aujourd'hui. On veut vraiment que vous puissiez peut-être découvrir des nouvelles choses sur Dieu, peut-être vous rappeler des choses que vous saviez déjà. Mais on voulait vraiment revenir sur cette base, en fait, la relation avec Dieu. On n'est pas là pour un cadre, on est là pour cette relation avec Dieu.